écoutez, je n'ai rien contre les chansons folkloriques, mais je dors juste au-dessus.
Quelles chansons folkloriques? Ce sont des chants sacrés, monsieur.
Pensant à quella libertà. C'est ça ce qui est important pour les Corses, l'espoir et la liberté.
Je comprends bien, c'est magnifique. Mais il est quand même plus de 2h du matin.
Moi, Obé, serre un verre de myrte.
Non, c'est un peu tard pour le digestif.
Quoi? Vous nous refusez le verre de l'amitié?
Mais alors avec beaucoup de glaçons.
CO2 en amour. Denis Chessou.
Je peux vous assurer que l'amitié est là, que l'accueil est absolument parfait. Nous sommes avec Dominique Muratti de Radio Corse Frequenza Mora qui assure la technique avec Stéphane Giannichini. C'est Christophe Imbert qui réalise cette émission assisté de Stéphane Combe, sans oublier Albert Hook. Alors évidemment, ça commence par une petite humeur. Regardez à l'ouest là. Eh bien, vous avez Madrid. À l'est, vous avez Rome. Entre les deux, la Corse et la Sardaigne qui ne formaient qu'une seule île et qui, il y a quelques 20 millions d'années, se sont séparés du continent.
Si je peux me permettre, c'est déjà un début de théorie géologico-indépendantiste. Il faudrait voir Denis à ne pas aller trop loin. Je préfère reprendre la main. Donc, CO2, mon amour, l'émission qui se targue de ne pas aller trop vite ne pouvait que faire escale en Corse, où la tradition paraît avoir érigé la lenteur en véritable art de vivre. D'ailleurs, je vous trouve très optimiste de faire cette émission à l'heure de la sieste. Jadis, un empereur de la chanson roucoulante nous susurrait que la Corse était une île d'amour. Ô Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour. J'aime ton doux rivage et ton maquis sauvage. J'ai vu des cieux enchanteurs. Pourtant, au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours. Ô Corse, île d'amour. Mais question, la Corse est-elle pour autant une terre amoureuse de l'écologie?
Ainsi est-on bien certain qu'aucun savant fou ne concocte pas dans un laboratoire perdu au fond d'un maquis impénétrable quelques variétés de châtaignes OGM?
Ces fromages artisanaux au parfum à nul autre pareil ne dégagent-ils pas discrètement un peu de CO2, mon amour, en plus de leur senteur exceptionnelle?
Cagoules parfois utilisées lors de surréalistes conférences de presse sont-elles bien tricotées en poils de chèvre local?
Denis, la phrase suivante, qui est drôle, hein, par ailleurs, je préfère que vous la disiez, c'est quand même vous le producteur de l'émission.
Alors, que penser quand on voit de nombreuses douilles devant les bars ou sur les routes de montagne qui ne sont pas ramassées après usage et qui ne sont même pas recyclées?
Denis, je vous informe à l'heure qu'il est que les débris de votre vélo viennent d'être satellisés. Quant aux cochons sauvages, leur divagation au petit bonheur sur les sentiers ne s'est-elle pas affranchie de tout plan d'épandage?
Et puis surtout, la limpidité des eaux du littoral résistera-t-elle encore longtemps à l'impact des hordes de touristes venus y diluer des hectolitres de crème solaire? Surtout quand on apprend qu'une nappe de gasoil d'origine inconnue de 500 mètres fait du tourisme entre Calvi et l'île Rousse depuis 2 jours. Dégazé, il n'y a rien à voir.
La beauté n'est pas toujours une bénédiction, notamment parce qu'elle suscite des convoitises, voire stimule des appétits très peu modérés. Toute association ayant lutté contre des projets de bétonneurs aux dents longues sait de quoi il retourne.
Et qu'entoure-t-il sur une île qui héberge la beauté? Bien évidemment, il y a sûrement du souci à se faire. On va donc saluer le travail des associations de protection de l'environnement qui relèvent quand même du sport de combat. Mais heureusement, la Corse, à l'heure des grands défis écologiques, peut s'enorgueillir de sacrées célébrités qui ont montré la voie à suivre. Si, si, et tout particulièrement à Calvi. Alors bon, Christophe Colomb, est-ce qu'il est né ici ou pas?
On s'en fout.
Voilà. Mais donc, en tout cas, il a senti le vent venir, il a su montrer que l'énergie éolienne pouvait emmener l'humanité quand même assez loin. Et puis, au-delà quand même de ces clichés assez grotesques énoncés plus haut dans le texte.
Ouais, c'est bien de le reconnaître. Vous n'êtes pas toujours le champion de l'autocritique, Denis, mais là, c'est bien.
C'est ça. Alors, donc, des gens ont dédié un festival à l'élément qui a façonné les hommes et les paysages, le vent, le festiventu. Et dans une société qui veut se rassurer rassurer en permanence, qui veut se blinder contre tout, qui ferme la cage aux oiseaux, circuler, il n'y a rien à vier.
Formidable ça, il n'y a rien à vier, c'est formidable.
Voilà. Donc, société qui pense encore domestiquer les éléments, le vent qui reste aléatoire, imprévisible, violent, délicieux, tourneur de moulins,
d'éoliennes,
pousseur de bateaux,
releveur de jupes,
distributeur de graines, le vent est aussi un semeur d'idées.
De l'art, de l'écologie, des droits humains, de la science, de la solidarité, un caravansérail insulaire, comme le dépeint si joliment leur créateur, Carina et Serge Auru.
Donc nous sommes à Calvi, au pied de la citadelle génoise. La Balagne est son enclave de terre fertile.
Enfin, celles qui ne sont pas encore bouffées par la promotion immobilière.
Elle nous accueille, donc soyez les bienvenus. Venez flâner la fête en l'air et merci de nous accueillir en Corse pour cette 22e édition du Festival 2. Ouais. J'étais accompagné, vous l'avez compris, dans ces facéties, par un homme que vous entendez quand même tous les vendredis matins, mais que vous pouvez aussi applaudir régulièrement, entre autres avec son spectacle Hyacinthe et Rose. Cher François Morel, ça vous change un petit peu de l'Orne quand même ici
ou... Pas tellement.
Non.
Pas tellement. Il y a moins la mer à Saint-Georges-des-Groseilliers, mais c'est à peu près le même climat.
C'est à peu près le même climat, c'est très bien. Et donc, on peut aussi vous retrouver dans ces chroniques formidables hein, que vous essaimez le vendredi matin, qui s'appelle « Je veux être futile à la France » aux éditions de Noël. Donc, ça vient de sortir, donc c'est bien.
Vous aimez le titre ?
J'aime bien le titre.
Je crois que vous allez sortir un livre de chroniques aussi ?
Oui.
Ferez-vous aussi bien ?
Eh bien, nous allons peut-être essayer de le trouver ensemble. Je ne sais pas du tout, cher François. Ce sera, mais c'est aux éditions... Oui, ce sera un peu plus tard.
D'accord.
Ce sera un petit peu plus tard. On va vous laisser vous sauver parce que vous avez préparé le spectacle.
C'est pas le tout, j'ai de l'ouvrage.
Oui, c'est que vous avez. Enfin voilà, donc ça allait, sinon tout allait bien.
À bientôt. Voilà.
Écoutez, à bientôt, cher François. Voilà, on peut applaudir François Morel qui va. Voilà. Oui. Alors Serge Auru, donc nous sommes en compagnie de différents invités. Jean-Louis Etienne va nous rejoindre, Corinne Lepage est présente, Jean-Christophe Angelini, Jean-Charles Kloboukoff, Lam Yam Selel aussi, nous allons parler. On va faire donc là aussi une espèce de caravansérail que nous aimons bien. Serge Auru, donc créateur de ce Festival du Vent avec Carina depuis 22 ans, avec ce titre quand même qui est « Chic, la mer est plastique ». Et on voit une affiche qui représente en fait un babouin qui est composé exclusivement de centaines de fragments et d'objets en plastique qui flottent sur la mer ou qui jonchent les rivages. Alors ça, on va saluer le collectif Clean Art Planet hein, donc, qui l'a réalisé. Pourquoi ce thème, on va dire, cette année plus particulièrement ?
Chic, la mer est plastique. D'une part parce qu'on célèbre les 10 ans de l'action réussie sur les sacs plastiques qui est partie depuis
la
Corse
ouais.
À la fin des années 90. Donc le 1er août 2003, la grande distribution insulaire a cessé de distribuer des sacs à usage unique. Et ainsi de suite, nous avons provoqué l'effet domino et sur le continent, aujourd'hui, nous sommes passés de 17 milliards de sacs plastiques distribués en 2003 en France à moins de 700 millions aujourd'hui. Chic, la mer est plastique, c'est un titre provocateur parce que s'il y a moins de sacs plastiques en mer, en Méditerranée, c'est évident, mais les fragments de plastique s'accumulent. Cette affiche, c'est de montrer l'action violente de la société de consommation et de production. Donc, comme on n'est pas venu sur Terre pour rendre la mer plastique. Voilà. Donc maintenant, il faut provoquer une offre de produits biodégradables. Il n'est pas normal de vivre une société où l'emballage dure plus longtemps que le produit qui vogue en mer pour des millénaires. Vous avez là, devant vous, mon cher Denis, un bouchon de plastique constitué d'un plastique biodégradable de polymère constitué avec des algues fait par la société Algopac de Saint-Malo. Donc, il est possible aujourd'hui d'avoir des emballages biodégradables et ainsi, nous aurons moins de déchets errants et flottants en mer et il est grand temps. Ça fait partie de l'économie circulaire et il est grand temps de provoquer cette offre.
Voilà, donc ça, c'est tout à fait intéressant de se dire qu'il y a quand même d'autres possibles. C'est aussi le ton de cette émission depuis déjà pas mal de temps. Lamia SM Lali, prenez donc ce micro. On va rester dans la mer avec vous parce que vous êtes la présidente de Sea Shaper de France. Alors, on connaît Paul Watson, on connaît donc le berger de la mer, on connaît évidemment cette association donc, qui fonctionne au coup de force, à la guérilla face aux baleiniers, à l'utilisation des médias. D'ailleurs, Paul Watson est aussi un ancien de chez Greenpeace. Vous êtes fait connaître pour avoir coulé un certain nombre de baleiniers, donc illégaux à quai, mais votre philosophie, c'est l'action. Quoi. Goethe avait une très très jolie phrase, d'ailleurs il disait le seul chemin, hein, donc c'est l'action, absolument. Quels ont été les résultats depuis donc 9 ans que vous intervenez dans le sanctuaire baleinier d'Antarctique ?
Alors, c'est vrai que tous les ans, le Japon se rend dans le sanctuaire baleine antarctique pour chasser illégalement des baleines. Ils se sont auto-attribués un quota de 1050 baleines. Pour rentabiliser, ne serait-ce que rentabiliser leur expédition, il leur faut atteindre le seuil de 700. C'est un seuil qu'ils n'atteignent plus depuis 5 ans. L'année dernière, ça a été la campagne de Sea Shepherd la plus efficace, puisque les Japonais sont rentrés à Tokyo avec 9% de leur quota.
Il s'était attribué, je crois, un quota de 2000 baleines par an.
Non, c'est 1050 baleines. 1050, donc 50 baleines à bosse, 50 rorquals communs et 950 baleines de mink.
Donc, il faut préciser qu'il n'y a quand même pas de police internationale en haute mer, on s'en doute bien. Donc
c'est la raison d'être de Sea Shepherd. Normalement, c'est parce qu'il n'y a pas de police internationale pour faire respecter les lois.
Vous intervenez en Méditerranée aussi ?
Alors, on a fait deux missions en Méditerranée, dont une en 2010 qui s'est soldée par la libération de 800 thons rouges qui avaient été braconnés en zone libyenne. La Libye, c'est une des dernières zones de reproduction du thon rouge. Et en même temps, c'est une zone où il n'y a pas de patrouille, ni de la marine, ni de la SICTA qui est chargée de contrôler la pêche au thon rouge. Donc, c'est forcément l'endroit où les braconniers se retrouvent le plus facilement. Et en deux jours de patrouille dans cette zone, on a libéré 800 thons rouges.
Quels sont pour vous les enjeux, on va dire, de l'océan et des mers dans les 10 ans à venir ? Moi, je ne parle même pas de 2050, mais vraiment dans les 10 ans à venir.
Alors, l'enjeu, c'est vraiment de faire prendre conscience au grand public la connexion intime qui nous lie à l'océan, de savoir vraiment que, de comprendre que si les océans meurent, nous mourrons. C'est très difficile parce qu'on est une espèce terrestre et que malheureusement, ce qui se passe en mer est loin des yeux. Donc, les gens, même en vivant à des centaines de kilomètres de la mer, ont un impact dans leur choix quotidien de consommation sur les océans. Et ils sont loin de se rendre compte. Je pense que quand les Nations Unies annoncent pour 2048 un effondrement des pêcheries commerciales, ça veut dire plus que le fait qu'il n'y aura plus de poissons au menu, ça veut dire la mort des océans. Puisque c'est la biodiversité marine qui permet aux océans de fonctionner et de nous fournir notamment l'essentiel de l'oxygène qu'on respire.
Alors oui, 50% quand même, faut rappeler le rôle des océans dans cet oxygène. Le rôle des citoyens ?
Le rôle des citoyens, il est dans leur choix de consommation essentiel. Le premier rôle, il est là. Alors, ils peuvent soutenir effectivement des organisations comme Sea Shepherd ou d'autres. Mais pour ce qui est, par exemple, de la chasse baleinière, c'est compliqué en France d'interpeller les gens directement là-dessus parce qu'en France, on ne mange pas de baleines. La France ne chasse pas des baleines. Donc, à part effectivement soutenir nos actions, les gens, dans leur quotidien, ne peuvent pas faire grand-chose. Par contre, dans le poisson qu'ils mangent, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et des missions sur lesquelles on travaille actuellement, donc en Afrique de l'Ouest, vont viser non seulement à lutter contre la pêche illégale qui pille les eaux africaines, mais aussi à faire ce lien entre ce poisson qui est volé à l'Afrique, rien que pour l'Afrique de l'Ouest, c'est 7 milliards de dollars de poissons qui sont volés chaque année, et qui terminent en grande partie aussi dans les marchés et les poissonneries européennes.
Voilà, donc Lamia Mselali, donc représentant donc Sea Shepherd de France, merci donc à vous. Paul Watson, a priori, on pense qu'il est quand même du côté du Canada, hein, il n'est peut-être pas au niveau des international.
Alors pas du tout. Je pense que s'il y a un pays où Paul Watson ne se rendrait pas, c'est bien au Canada, parce qu'il est persona non grata là-bas depuis les années où il lutte contre la chasse du Canada, Canada la chasse aux phoques. Oui. Il a la double nationalité canadienne et américaine. Il a été vu au large de l'Antarctique sur la dernière campagne puisqu'il y était. Et on a une journaliste du Nouvel Obs qui l'a rencontré. Aussi près du pôle sud et qui a fait donc une interview avec lui. On a fait un Skype avec lui récemment, un Skype public à Paris. D'accord. Où on le voit en haute mer. Je peux vous garantir qu'il est plutôt il est assez éloigné du Canada à l'heure actuelle.
Paul Watson est le bienvenu au Festival du Vent.
Merci.
Oui, ça va être, je ne suis pas sûr qu'il écoute forcément l'émission, mais en tout cas, il est parfaitement bienvenu. Corinne Lepage, donc présidente de Cap 21, ancien ministre de l'Environnement, avocate, députée européenne, avec nous, donc aussi aujourd'hui, fidèle, on va dire, de ce Festival du Vent. Alors peut-être, je ne sais pas, comme ça, quelques réflexions.
Ça m'appelle beaucoup de choses. D'abord, peut-être une pensée pour les militants de Greenpeace qui se sont battus pour que, et qui se battent toujours pour qu'il n'y ait pas de mise à sac de l'Arctique et qui sont aujourd'hui prisonniers dans les geôles russes. Donc nous sommes nombreux à être mobilisés pour eux et je pense que c'est le moment de penser à eux quand on parle de la mer. Deuxièmement, bien prendre conscience du lien entre la protection des océans et le changement climatique parce qu'aujourd'hui, ce sont les océans qui absorbent beaucoup des effets du changement climatique avec une acidification considérable. C'est un véritable problème pour la faune et pour le comportement des océans à terme. Troisièmement, le fait, et je m'arrêterai là, le fait qu'il y a quand même des choses à faire. Nous sommes battus au Parlement européen récemment pour interdire la pêche en eau profonde. parce que effectivement c'est une vraie difficulté.
Quand on va récolter les fonds à 500, 800 mètres
absolument,
de profondeur.
Oui, absolument. Et malheureusement, la France n'a pas sur ce point la position qu'on souhaiterait qu'elle ait. Donc voilà, j'en profite.
On a un peu un double discours.
Pardon ?
On a parfois un peu double discours.
Ben oui, parce qu'on a des entreprises qui sont directement, notamment une, qui est directement intéressée à ce type de pratique. Donc voilà, on est toujours pris entre le marteau filet et l'enclume. Mmh. Mais je crois qu'il faut avoir une position ferme sur ce sujet-là. Et puis, le dernier point, c'est vrai qu'il n'y a pas de police internationale en haute mer. Moi, je fais partie de ceux qui se battent pour qu'il y ait un tribunal pénal international de l'environnement. Je pense que le jour où on aura des infractions pénales de l'environnement au niveau international et un tribunal pour les juger, bien, les gens seront un peu plus raisonnables. Malheureusement, la peur du gendarme, c'est encore quelque chose de très efficace.
Tout à fait. Écoutez, on va poursuivre ce voyage dans le Festiventu, le 22e du nom. On va vous offrir une chanson d'un homme qui n'est pas là, mais qu'on aime bien, qui est Thomas Fersen. C'est notre première chanson dans CO2 en amour.
Je ne cherche jamais la querelle, je suis doux comme une tourterelle. Mais là, il y a eu un silence hostile, les types n'aimaient pas mon style. Mes lunettes, mon chapeau, mon parapluie et mon museau. Alors j'ai enlevé mon chapeau, je me suis mis en tricot de peau. Je me suis mis en caleçon, j'ai dit messieurs, en position. Je n'ai de dents contre personne, j'aime la pop sale anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. Je ne cherche jamais la querelle, je suis doux comme une tourterelle. Mais de temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. Je ne suis pas quelqu'un de belliqueux, mais si l'on me marche sur la queue, oh là, oui là, alors là. Je ne suis pas un mauvais coucheur, mais si l'on parle pas bien de ma sœur, je me mets en caleçon, je dis messieurs, en position. Je n'ai de dents contre personne, j'aime la boxe à l'anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. Mais soudain le téléphone sonne, ma femme me demande en personne. J'entends sa douce voix qui me dit, donne le bonjour à tes amis. Je te prépare des raviolis, tu penses à ramener le pain chéri. Il y a eu un silence de mort, j'ai remis mon tricot de corps. Nous reprendrons cela demain, ce soir c'est rond, nous donc la main. Je n'ai de dents contre personne, j'aime la boxe à l'anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. Je ne cherche jamais la querelle, je suis doux comme une tourterelle. Mais de temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. C'est comme fumer un bon cigare.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
C'était Thomas Fersen, notre premier disque, La boxe à l'anglo-saxonne. Vous êtes bien en direct du Festival du Vent, le 22e. Nous sommes à Calvi. La mer est réelle, elle n'est pas loin du tout. On est à une centaine de mètres donc, de la mer. La citadelle est absolument à sa place. Nous sommes avec nos différents invités. Tenez, Jean-Louis Etienne, vous avez tiré la chaise, c'est très très bien. Vous êtes là. J'ai presque dit, comment allez-vous, docteur? Est-ce que vous êtes médecin quand même à l'origine?
Je vais très bien. Les dernières analyses sont bonnes.
Voilà, donc c'est une bonne santé. C'est parfait. Non, mais vous aviez commencé. D'ailleurs, quand vous êtes parti sur le bateau aussi de Tabarly, vous étiez parti comme médecin, c'était ça?
Ah oui, oui, c'est comme ça que j'ai été recruté par Tabarly, parce que j'étais médecin, je n'étais pas assez performant comme régatier. Ouais. Et Eric cherchait un médecin, et je ne pensais jamais pouvoir être sélectionné. En fait, il fallait être libre un an pour partir faire la course autour du monde, et c'est comme ça que j'ai embarqué avec lui.
Alors vous êtes là, arrivé ici, j'ai presque dit pour faire une espèce de plein de chaleur, parce qu'en 2015, vous allez retrouver des éléments que vous aimez beaucoup. Ça vous a retrouvé l'Antarctique. Et là aussi, on va quand même un rapport directement avec une mer qui est assez incroyable, c'est celle qui fait le tour de l'Antarctique.
Oui, il y a un océan qui fait le tour du monde, c'est l'océan Austral, c'est-à-dire cet océan qui est autour de l'Antarctique. Là, on parle du continent du pôle sud, hein, et cet océan, il tourne autour, il est poussé par les vents légendaires que les marins du Vendée Globe nous font connaître tous les 4 ans, c'est les 50e.
Le 50e hurlant, c'est
voilà.
Ça.
Donc il y a 5 dépressions qui tournent autour de l'Antarctique en permanence et qui poussent ce vent depuis des millénaires. Et cet océan, il est vraiment loin de tout. Et en général, sur une carte du monde à plat, c'est un tout petit trait au fond. Et en fait, si on regarde la planète avec l'Antarctique, dont le pôle sud en face, on se rend compte que c'est un immense océan qui réunit les 3 océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. C'est absolument géant. C'est une immensité qui est relativement peu connue, parce que c'est loin, parce que les campagnes sont coûteuses. Et en général, les campagnes sont l'été. Et en dehors de ça, toutes les communications qui sont sur cet océan se terminent toujours pareil. On manque de mesures in situ.
Et donc, c'est ça va être le travail que vous allez effectuer, donc voilà. Avec le fameux le Polar Pod. Alors, le Polar Pod, ça veut dire plateforme océanique dérivante.
Oui, puis un pod, c'est un baladeur aussi.
Oui.
Et en fait, cette équation, c'était on manque de mesures in situ. Et donc, je me suis dit, quel type de vaisseau on pourrait inventer pour séjourner sur cet océan?
Ça, vous aimez bien, c'est votre truc. Moi, je me souviens comme ça.
J'aime bien inventer les trucs. Oui. Ouais.
Mais même déjà, quand vous étiez gamin dans le Tarn, à Vielmur, au fond de votre cabane, oui. Vous inventiez des tas de choses.
Donc, oui. Il faut dire que ma première formation, je suis tourneur-fraiseur.
Et voilà.
Vous voyez, c'est mon premier métier. Puis après, donc, j'ai fait chirurgie, naturellement.
Oui. C'est un
travail manuel.
Il faut être bricoleur dans les deux cas. Hein,
c'est vachement important.
Pour une prothèse de hanche, c'est quand même manuel. Bien de savoir aussi couper
et donc,
du bois. Quoi.
Avec un bureau d'études de Lorient, on a trouvé ce système de flotteur. En fait, c'est un grand tube, on va dire, pour faire simple, avec 80 mètres de tirant d'eau. Donc, il est profond dans l'eau. Et donc, ça lui donne une stabilité. Ça permet de s'installer au-dessus, dans une cabine, et de dériver avec le courant. Donc, nous allons être autonomes, poussés par le courant, autonomes en énergie, parce qu'il y a énormément de vent tout le temps. Zéro émission pratiquement, on va être tout en renouvelable. Donc c'est une superbe campagne qui devrait durer peut-être 2-3 ans, le temps que le courant veuille bien nous amener tout autour.
Donc l'idée c'est quand même d'avoir un système qui va être autonome.
Oui, je disais l'homme de science est devenu trop cher en mer.
Oui.
Les navires océanographiques sont coûteux comme tous les navires et les budgets de recherche sont dans le déclin. Ils sont aussi extrêmement tributaires du coût du fuel. Un navire comme le Marion Dufresne consomme une tonne de fuel à l'heure. Coûte 50 000 euros par jour, donc vu les budgets de recherche en déclin, l'idée c'était de trouver un vaisseau, on ne fera pas la même chose, mais un vaisseau qui soit autonome et qui offre à des chercheurs du temps low cost en mer, parce que c'est ça l'idée. Il faut qu'il soit autonome, l'équipage est de 3 personnes, donc en termes de masse salariale, ça n'a rien à voir avec un bateau, et donc ça offre du temps en mer et un vaisseau qui permet de faire des mesures d'une grande précision, notamment sur les échanges atmosphère-océan. Parce que cet océan, qui est une immensité d'eau froide, est ce qu'on appelle un puits de carbone.
Plus les eaux sont froides et plus on capte évidemment du CO2.
Plus les eaux froides absorbent le CO2. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle la pompe physique. Il y a la pompe biologique, c'est celle qu'on a évoquée, c'est le plancton. Et la pompe physique, la dissolution du CO2. Et donc c'est un vrai puits de carbone qui est mal connu et dont les mesures pourraient impacter les modèles climatiques parce qu'on ne connaît pas assez bien la capacité de cet océan.
Pour faire le lien entre le froid et le chaud, vous avez une très jolie réflexion tout à l'heure. Là. Vous disiez, la Corse, qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que bon, vous n'y êtes pas venu très très souvent. Mais vous...
La Corse a une surface étalon qui fait le lien, effectivement, vous avez raison, entre les eaux tropicales et les eaux chaudes. C'est qu'il y a de plus en plus, et c'est vrai, de grands icebergs tabulaires qui se décrochent de l'Antarctique et régulièrement, on dit, aussi grands que la Corse. voilà. Ou grand comme la moitié de la Corse. Donc c'est une valeur étalon en matière de surface d'iceberg.
Voilà, ben, vous voyez, vous ne le saviez pas, Jean-Christophe Angelini, tenez, prenez ce micro, parce que donc 8 500 km², hein, me semble-t-il, quand même à peu près la Corse, et ben voilà, donc vous avez des icebergs qui se baladent et qui emportent peut-être un petit peu de Corse, enfin n'abusons pas. Alors Jean-Christophe Angelini, évidemment, que nous allons parler aussi de votre île, vous êtes secrétaire général du Parti de la Nation Corse, vous êtes conseiller territorial de l'Assemblée de Corse et conseiller général du canton de Porto Vecchio. Et puis vous êtes aussi président de la société Mix Corse Bois Énergie. J'ai envie de commencer par cette question-là. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'esprit d'indépendance sur cette île et qu'on le soit aussi peu d'un point de vue énergétique ?
Mais je vous dirais précisément qu'il y a un lien de cause à effet, historiquement, parce que s'il y a cet esprit d'autonomie, d'indépendance, d'affirmation, d'identité, etc., qu'il ne faut pas confondre hein, avec un repli identitaire quelconque ou un racisme ou une xénophobie sous le contrôle de Serge, qui connaît bien ces questions-là, et puis on en parle assez souvent l'un et l'autre pour être au clair, il y a au contraire une volonté d'aspirer à quelque chose de différent, qui soit profondément universel, profondément ouvert à toutes les communautés, à tous les peuples, etc.
L'insularité, mais sur les bases complètement différentes. Oui, c'est ça, mais ça devrait être comme un laboratoire fabuleux.
Quand ça on doit être un laboratoire, oui. À l'image du Festival tout d'ailleurs, qui fonctionne depuis 20 ans. Oui. Et en gros, l'idée que l'on a, c'est de bâtir une société qui soit à l'image de ce que vous vivez ici depuis quelques jours et que vous allez continuer à vivre pendant les jours qui viennent. Donc, pour revenir au sujet principal, c'est exactement ça. En gros, c'est dire, voilà, comment la Corse peut aujourd'hui trouver un chemin vers l'universel et comment elle peut trouver ce chemin sans renier ce qu'elle est profondément.
Alors, on va parler maintenant effectivement de certaines énergies renouvelables, à savoir donc le bois. Oui. Moi, j'ai découvert une chose, je pensais que c'était les Vosges qui étaient en tête, mais enfin, il paraît que le massif forestier de Corse est le plus important de France.
Je vous le confirme. Il faut savoir en gros que le massif forestier corse, il est le plus important de France, qu'on a un périmètre de renouvellement naturel de la forêt qui est particulièrement important. On a des centaines de milliers de tonnes qui sont là. Alors, effectivement, il faut insister sur un point qui est important, c'est que l'idée, ce n'est pas de mettre la forêt en marché. Oui. La forêt, ça reste quelque chose qui est d'abord un élément naturel et patrimonial, au sens plein du terme, tout à fait considérable. C'est en même temps quelque chose qu'on peut orienter vers la multifonctionnalité, y compris dans une terre de tourisme, expliquer qu'on n'est pas forcé de faire du tourisme sur une portion infime d'espace, en l'occurrence le littoral, et de temps, en l'occurrence les 2 mois d'été, qu'on peut imaginer des formes intelligentes d'aménagement de territoire, de développement économique, social, partagé, durable, solidaire, etc. Et que dans ce schéma-là, dans ce modèle économique nouveau, la forêt, elle a un rôle central à jouer.
Alors, qu'est-ce qu'il faut, la volonté politique, volonté aussi donc des maires, comment ça va se passer? C'est vrai que là, on a un renouveau, on va dire, de la forêt. Heureusement, on s'y intéresse. On sait très bien qu'on a à peu près 26% de notre territoire français, tout confondu, qui est recouvert par des forêts, mais qu'on n'a pas du tout les filières qui vont avec, en amont et en aval. Et donc, c'est toujours là que l'on lutte.
C'est là que le bât blesse, mais c'est un problème ancien. Et puis c'est un problème, comment dire, qui est lié aussi à des choix économiques qui ont été faits à l'échelle du pays tout entier. Oui. La France, avec un couvert forestier 2 fois moins important que celui de l'Allemagne, a créé 2 fois moins d'emplois et un déficit dans la balance commerciale de plusieurs milliards d'euros. Ça en dit long. Corinne Lepage connaît très bien ces questions-là aussi.
Je disais 7 milliards cette année.
Sur le manque à gagner lié à la forêt. Donc nous, ce que l'on postule, c'est que la forêt corse, elle peut être un point d'entrée pour ce développement alternatif. Et je rappelle quand même un objectif qui est important, puisqu'on parlait de terre d'excellence en matière écologique, c'est que la Corse a la vocation à générer 30 à 40% dans les 15 à 20 ans qui viennent de production ferme d'énergie renouvelable, avec en parallèle un vrai effort sur la MDE, la maîtrise de l'énergie. Elle a vocation, parce qu'elle l'a voté, à inscrire à 2050, donc dans les 3 décennies qui viennent, l'objectif d'autonomie énergétique plein. Alors, et dans ce concert-là, le bois a un rôle central à jouer.
Donc on a évidemment le bois. Parlons maintenant quand même des autres sources d'énergie, parce que bon, c'est vrai que pour fabriquer de l'électricité, vous aviez, il n'y a pas si longtemps, 2 centrales pourries au fioul qui étaient...
Qui nous ont crevé.
Vous avez toujours,
et on les a encore d'ailleurs.
Vous les avez encore, très bien. Si on parle de l'hydroélectricité, je sais que c'est votre truc, mais on va avoir, là je parle sous contrôle de Corinne Lepage, mais 2 directives européennes qui peut-être un peu sont contradictoires. Oui, d'un côté, on a effectivement celle sur le bon état écologique des eaux, donc ça veut dire qu'il faut laisser quand même de la liberté aux eaux pour qu'elles aient un bon état écologique. Précisons quand même qu'en Corse, c'est quand même pas trop menacé parce que c'est quand même une qualité d'eau qui est assez exceptionnelle.
Oui, hein,
donc c'est pas du tout des coins comme la Bretagne ou ailleurs. Et puis à côté de cela, il y a aussi, on va dire, cette obligation d'arriver à 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Bon, donc comment on peut faire pour effectivement équiper, on va dire harnacher, mais jusqu'où donc certaines rivières chez vous, comment on peut équilibrer ça?
En gros, si vous voulez, si on prend le problème globalement, donc on a des délibérations nombreuses de l'Assemblée de Corse, dont je suis élu avec beaucoup d'autres, qui sont souvent unanimes et qui portent en gros à dire qu'il faut avoir une action très volontaire, et ça a été vraiment porté de façon politique très très forte, très massive. Aujourd'hui, on dit voilà, le bouquet énergétique, ça a été pendant longtemps et ça l'est encore, même si sur le renouvelable, on l'a vu, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, 30% d'interconnexion, 30% de renouvelable et 30% de production thermique en base. Bon, nous on dit, voilà, on ne peut pas continuer en l'état, parce qu'on voit bien qu'on a un potentiel énorme. Vous le rappeliez ici, on est fin octobre, 25 degrés, un pays béni des dieux. Mmh. On reçoit 9 milliards de mètres cubes d'eau. On en capte péniblement 1%. On est l'île la plus arrosée de Méditerranée.
Oui, c'est un parapluie ici.
On a du vent à revendre. On a de l'énergie qui est là potentiellement disponible. Et on continue avec des modèles énergétiques hérités du siècle passé, et notamment avec des centrales qui sont polluantes, qui sont coûteuses et qui nuisent terriblement à la santé publique.
Bon, alors donc, alors, équilibre avec les mini
à partir centrales. De là, on dit, voilà, il y a un bouquet énergétique qu'il faut développer très rapidement. Il y a cette question du bois, on l'a un peu vu, il faut développer ça de manière massive. Il y a la question, bien sûr, du solaire, avec le photovoltaïque notamment, et pourquoi pas demain la thermodynamie. Il y a la question de l'éolien, même si, en termes de relief, de configuration et d'acceptabilité sociale, ça n'est pas sans poser quelques difficultés.
Je suis passé à vélo.
Il reste
là.
Le problème de l'eau qu'il faut traiter.
Jeudi, sur la superbe route entre Galeria et Calvi, là, j'ai vu les 10 éoliennes. Elles pointaient à Pôle emploi. Hein. Elles ne bougeaient pas. Là. Il y avait un peu de vent. C'était tranquille. Là.
Sur l'éolien, bon, on a renoncé à l'offshore. Je crois qu'on a bien fait. On a quelques idées aujourd'hui, mais en gros, on pense que ça n'est pas la part prépondérante dans le renouvelable. Par contre, sur l'eau, il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de contradiction avec les deux directives européennes dont vous parliez et la volonté qu'on a ici de promouvoir ce type d'énergie. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il faut sortir de la culture des grands équipements.
Oui.
On n'a pas vocation ici à faire de très grands barrages. Non. Deux, si on s'oriente vers la mini-hydro...
Il y a le sud du Rinazé qui a été fait, donc, qui a un peu bousillé quand même le site. Mais enfin, bon, voilà.
On peut effectivement... Bon, voilà, c'est un débat qui a été ouvert.
Oui, bah c'est, et maintenant, il est fermé. Donc,
Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'orienter vers la mini-hydro. Et là, effectivement, il faut arriver à harmoniser cet ensemble de choses, et notamment un point qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que la Corse, comme tous les territoires comparables, ce n'est pas une compétence qu'on revendique uniquement pour nous, et son capacité de co-fixer avec le Parlement les tarifs de rachat. Parce que tant qu'EDF, qui est l'obligation légale de racheter 100% des énergies renouvelables produites en tout point du territoire, sera jugée partie, en gros, seule à pouvoir acheter et seule quelque part à déterminer le prix, on aura quelques difficultés. Or, nous, on pense qu'aujourd'hui, les tarifs de rachat qui sont pratiqués ne sont pas de nature à favoriser le développement du renouvelable.
Alors, Serge Auru, là, c'est très intéressant parce que vous avez lancé quand même un appel qui me paraît une chose de bon sens. Lequel, ici, au Festival du Vent?
Vous savez, on aime les appels, mais surtout, nous, on aime les idées qui se concrétisent et qui se réalisent. Oui. On a réalisé certaines. Il faut continuer. Hier, avec Corinne, avec Dominique Bourg, avec Michel-François Lambert de l'Institut de l'économie circulaire, avec Thierry Salomon de Negawatt, avec Georges Guironnet d'Ayasol et bien d'autres, on a décidé de lancer un appel pour demander à la Corse, à la collectivité territoriale, Jean-Christophe, j'espère que tu seras un bon relais, pour que en Corse, il y ait une obligation réglementaire, comme en Espagne d'ailleurs, comme dans la région de Barcelone, de pouvoir installer pour toutes les constructions neuves 60% de solaire thermique, c'est-à-dire pour chauffer notre eau sanitaire.
C'est pas aberrant quand même.
C'est pas aberrant, c'est pas difficile, c'est pas révolutionnaire.
Ben non,
c'est... Voilà, c'est l'appel de Calvi et j'espère que dans 10 ans, Denis, vous viendrez fêter et célébrer sa réussite.
Oui, puis même j'espère avant 10 ans, oui, Corinne Lepage.
Oui, non, mais je crois que ce qui vient d'être dit est quand même particulièrement important. Alors, je vais dire des choses qui fâchent, mais vous allez me pardonner. On a une politique en ce moment qui est tout à fait aberrante sur ce sujet et on ne bouge pas. On a soi-disant fait un débat national sur la transition énergétique qui est en train de conduire à nos choix, c'est-à-dire on continue comme par le passé, on fait le dos rond, et donc on ne baisse en réalité pas la part du nucléaire, et tant qu'on ne baissera pas la part du nucléaire, il est tout à fait clair qu'on n'aura pas de politique destinée à encourager l'autonomie des collectivités territoriales et ce qu'on appelle la décentralisation énergétique, et le développement de l'efficacité énergétique de manière sérieuse et les énergies renouvelables. Donc là, on a un véritable problème. Il n'y a pas de scénario de réduction de la part du nucléaire, on ne sait pas ce qu'on attend. On attend Godot, mais en dehors de ça, les choses ne bougent pas beaucoup. Et c'est quand même anormal qu'une île comme la Corse n'ait pas une autonomie énergétique importante. Je pourrais dire la même chose de la Réunion, je pourrais dire la même chose des territoires d'outre-mer.
Réunion d'ailleurs qui s'était lancée avec M. Vergès quand même sur une politique d'énergie renouvelable.
Oui, mais on limite à 30%.
Oui, c'est vrai.
Alors, de toute façon, on limite à... C'est complètement ridicule. Et vous avez à côté de ça les îles en Écosse qui, elles, sont autonomes sur le plan énergétique. Mais on rêve. C'est absolument absurde. C'est une politique absurde. Donc, je lance aussi un deuxième appel de Calvi pour qu'on en vienne un peu au bon sens dans ce pays et qu'on se mette au 21e siècle et plus collé à l'heure du 20e siècle.
Jean-Christophe Angelini.
Tout à fait d'accord avec ça. Il faut quand même également prendre un autre point en compte. C'est qu'on a récemment travaillé dans ce cadre-là, la collectivité a impulsé un salon Énergile, qui avait notamment pour principe de mettre en synergie les situations vécues par les territoires insulaires, y compris du point de vue des problématiques qu'on connaît bien, de tarifs de rachat, etc. Mais pas seulement. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de culture de collaboration inter-insulaire qui commence à prendre pied dans le domaine de l'investissement, de la production, du point de vue des énergies renouvelables. Et il y a un autre point que je voulais aborder rapidement, puisque vous parliez de la question du bois, Denis. On s'est positionné récemment, on est là, en train, il n'y a pas de hasard si le festival a lieu au même moment, on est en train de répondre à un appel à candidature. La SEM, Corse Bois Énergie, que j'ai le plaisir de présider, pour faire de la cogé biomasse en Corse. Ce sera la première fois. C'est-à-dire que ce que les gens ne savent pas assez de mon point de vue, et c'est dommage, et mea culpa, on y est forcément pour quelque chose, c'est que la SEM, Corse Bois Énergie, elle chauffe et elle climatise, à partir du bois corse, un tiers de la ville universitaire.
De Corté.
Et là, notre objectif, dans les 18 mois qui viennent, c'est de la fournir en électricité.
Alors Jean-Louis Etienne, ça c'est intéressant parce que vous êtes parti pendant 2 ans en Californie. Vous avez vu, et on le voit d'ailleurs aussi en France, en Europe, on a une foultitude de solutions qui fonctionnent. Mais ça ne devient pas encore un modèle à suivre. Bon, et Dieu sait s'il y a quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire, on va dire un peu sur ce thème, parce que vous voyez quand même beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Vous attendez qui? Ou est-ce que vous attendez les politiques? Vous attendez des grands-messes?
Je pense que des régies locales pour l'énergie seraient l'efficacité, en fait.
Donc vous parlez de décentralisation.
Je signe ton truc. C'est un gâchis monumental, le solaire thermique. Il faut bien comprendre que le solaire thermique est très bien en Corse, mais ce n'est pas parce qu'il fait chaud. Il faut comprendre que ce n'est pas la chaleur qui fait le solaire thermique. C'est le rayonnement électromagnétique du soleil.
Donc dans le nord de la France,
vous allez au pôle Nord. On va ensemble au pôle Nord. Il y en a qui sont habillés en blanc et d'autres en noir. Il fait moins 25. Celui qui est habillé en noir ici en bon soleil, c'est chaud. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez partir tout à l'heure, vous mettez la main sur une voiture blanche et la main sur une voiture noire. Elles sont à la même température extérieure. Il y en a une que vous ne pouvez pas toucher parce qu'elle est noire. C'est le rayonnement électromagnétique du soleil. C'est pour ça que c'est bon partout, autant dans le nord de la France qu'en Corse, mais avec l'ensoleillement que vous avez, on peut effectivement coupler thermique et photovoltaïque en plus parce que vous avez un ensoleillement direct. Mais le thermique, 100% d'accord avec toi. Et moi, je suis favorable à des régies locales parce que c'est la meilleure façon d'exploiter l'énergie qui se passe là. Le soleil, l'hydraulique au fil de l'eau, vous avez des ressources colossales. On n'a pas besoin de faire des barrages, des toutes petites retenues qui permettent d'alimenter une commune. Ça suffit.
C'est différent de construire un seuil, un barrage.
C'est la micro-hydraulique, vous l'avez évoqué, c'est tout à fait bien.
Jean-Louis a 10 000 fois raison. Et la preuve en est qu'en France, le meilleur exemple qu'on ait d'autonomie énergétique, c'est une commune qui est en régie, qui s'appelle Montdidier, et c'est en Picardie.
Dans la Somme.
Mais bien évidemment, il y a une bagarre d'EDF qui ne veut pas entendre parler de modification de la loi de 46, qui est la loi sur la nationalisation de l'électricité, dans laquelle sont entrées toutes les communes françaises, à l'exception de 150. Nous n'avons que 150 régies d'électricité en France. Mais il est clair que ce serait la solution pour encourager la décentralisation énergétique, évidemment. Et on ne peut que souscrire à ce qu'a dit Jean-Louis.
Et c'est parfaitement compatible avec du service public.
Ah ben une régie, oui, bien sûr. Oui,
voilà, c'est ça qu'il faut dire.
Alors, ce que je vous propose, parce que quand même, on a un deuxième disque, et là, on l'a fait exprès avec Thierry Dupin, c'est un filetta. Hein. Donc,
bravo.
Donc la fougère, c'est ça. Allez, c'est parti.
Diamant. Suba sunara e gase so qui a cura rigor di da
svelu es valju de denira den taranen che lumia den pusista
lumia den pusista lumia den pusista
adio istu l'inferno donna mamma auspica allaccia una giornata d'era di quelle che ponuturna entrare nel cielo una viento
Filetta pour nos amis du Festival du Vent, pour les amis corses et aussi pour vous toutes et tous qui nous écoutez donc sur toute la France. Donc Filetta la Fougère. Et alors Jean-Christophe Angelini, le titre, j'ai envie de l'entendre avec votre accent imbattable.
Nentara Nencelu, ni sur terre ni au ciel. En fait, deux, trois choses rapides. Bon, Filetta, littéralement, effectivement, tu l'as rappelé, c'est bon, la Fougère. Mais encore, ça renvoie aussi à une symbolique très forte qui est attachée à la fougère. Et on a même un proverbe qui dit « un discorda di Avileta », qui littéralement signifie « n'oublie pas la fougère », mais qui chez nous, symboliquement et culturellement, signifie « n'oublie pas ce que tu es, tes racines profondes, d'où tu viens, etc. Oui. » Et c'est beau que vous ayez trouvé ça, parce qu'Avileta, c'est un groupe qui est ancré en Balagne, que tout le monde connaît, puisqu'il est mondialement connu aujourd'hui, qui a fait un travail extraordinaire pour... j'allais dire l'exportation et l'expression mondiale de la polyphonie corse, hein, en collaborant notamment à des musiques de films, je connais bien, des choses tout à fait formidables, et qui est, je crois, l'ambassadeur de la culture au sens où nous, on l'entend, de manière très, très ouverte et très décloisonnée. Donc, c'est formidable.
Alors, Charles Kloboukov, comme son nom l'indique, donc, n'est pas exactement effectivement de la même région, mais la Fougère, ça l'intéresse parce qu'il est le président et le directeur du groupe Léa Nature, qui a été fondé en 1993. Et puis, nous, on aime bien aussi quand même donner la parole aux entrepreneurs qui sont quand même assez décriés en France. Dans son petit papier d'humeur hier, donc, François Morel disait « Mais oui, mais on aime l'esprit d'entreprise, mais on n'aime pas les entrepreneurs qui sont trop mal aimés dans ce pays. Donc vous avez créé Léa Nature qui fait la promotion de produits naturels qui sont liés à la santé, mais aussi, il faut le dire, votre entreprise, ce n'est pas que ça, c'est une entreprise qui est vraiment engagée dans l'éco-conception au niveau des bâtiments, des cycles de production. Et puis, c'est l'alliance de la croissance, de la rentabilité, mais du respect de la planète et de la citoyenneté. Alors, vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle « Itinéraire d'un entrepreneur engagé ». Et alors, votre histoire est assez intéressante parce qu'en fait, vous vouliez devenir médecin. Bon, vous êtes rendu compte que ce n'était pas forcément là que vous alliez pouvoir déboucher, mais vous avez toujours essayé d'agir sur les causes plutôt que sur les conséquences. Et puis, il y a quand même eu un univers familial assez intéressant aussi chez vous.
Oui, effectivement, dans mon enfance, l'adage était qu'il valait mieux rester en bonne santé plutôt que d'attendre de tomber malade et de se soigner et d'avoir recours à l'allopathie.
Cher Hippocrate.
Donc voilà. Donc oui. ça m'a effectivement aidé à faire grandir l'idée qu'il valait trouver dans la nature toutes les ressources nécessaires pour que l'homme reste en bonne santé et que le destin de l'un était extrêmement lié au destin de l'autre. Il faut dire que la nature est la seule chose que l'homme n'a pas créée sur Terre. Alors, donc, il vaut mieux en prendre soin.
Ce qui est intéressant, c'est que l'idée est donc, c'est de proposer une alternative naturelle aux produits agrochimiques de santé, de beauté, d'hygiène. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que en fait, vous avez pu faire développer des surfaces en bio dans certains coins de France.
Absolument. La relocalisation de l'agriculture bio, qui est une agriculture humaine, qui apporte de la valeur, est pour nous essentielle. L'objectif est de développer une alternative au schéma traditionnel, à la mondialisation, même si on n'est pas forcément uniquement dans l'altermondialisation. La valorisation des sols, des savoir-faire régionaux est essentielle pour promouvoir une économie basée sur la proximité.
Alors, cette entreprise, vous faites partie de ces chefs d'entreprise qui disent assumer sa vraie contribution sociale. Alors, ça peut être pour certains de l'affichage, ça peut être du greenwashing, etc. Ça, on en connaît pas mal. Mais comment ça se traduit, on va dire, chez vous, chez la nature ?
Alors, c'est vrai que lorsque j'ai entrepris, j'avais le choix entre deux statuts, la société à responsabilité limitée ou la société anonyme. Eh bien, j'essaie d'ouvrir une troisième voie qui est la société engagée. Ça veut dire effectivement prendre un certain nombre de partis pris, placer la performance économique comme une contrainte et non pas comme un objectif, et faire des choix de long terme plutôt que de court terme. Oui. Donc je crois qu'effectivement les entreprises indépendantes et familiales peuvent se le permettre, pas forcément celles qui sont gouvernées par des fonds de pension.
Et puis Charles Kloboukov, donc vous participez à ces rares entreprises qui versent 1% de leur chiffre d'affaires, quand même sur 125 millions d'euros, c'est pas mal, qui reversaient à des associations donc, qui militent pour la protection de l'environnement. Alors vous avez une lutte contre les OGM qui est un véritable combat. Ce qui m'intéresse bien aussi, c'est que vous militez pour qu'on rende cher les produits qui ne sont pas bons et qu'on baisse les prix des produits qui sont bio.
Oui,
ce qui paraît logique. Enfin, on se dit que les produits effectivement qui polluent sont moins chers que les autres. Quoi.
Bah effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les sociétés les plus riches ou celles qui, depuis la crise, ont vu leur capitalisation boursière le plus augmenter, ce sont les entreprises de l'agrochimie. Donc on peut se poser la question, effectivement, finalement, du coût de la dépollution. On sait que la plupart de ces produits chimiques finissent dans la nature et qu'elles perturbent de manière très importante la faune et la flore et que ce n'est pas pris en compte. Donc aujourd'hui, effectivement, qui paye ceci ? Bah, ce sont les pouvoir public. Donc moi je plaide en faveur, au même titre que dans l'automobile, d'un système de bonus-malus fiscal qui permette aux entreprises d'assumer leur vraie responsabilité vis-à-vis de l'environnement.
Corinne Lepage.
Ben, je pense que Charles a tout à fait raison, qu'on a besoin de changer la fiscalité pour qu'elle encourage effectivement les comportements vertueux et qu'on sorte de situations gaguesques comme celle qui consiste à donner ce que l'on appelle le prix Nobel de l'alimentation, c'est-à-dire le prix de l'alimentation à Monsanto, Syngenta, Monsieur de Montagu, inventeur des OGM. Voilà, donc c'est ce que j'appelle une situation gaguesque, parce que ce serait comme donner le prix Nobel de la paix, aller au hasard. Il y a beaucoup de candidats possibles. Oh, hein. Bachar el-Assad, par exemple.
Oui, bien voilà. Sûr, tout à fait.
Alors, un mot sur le 1%. Le 1% pour la planète est une initiative de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Oui. Et cette idée est de s'imposer un impôt volontaire. Alors, non pas sur le bénéfice, mais sur le chiffre d'affaires. Et je crois qu'effectivement, là, ça peut prouver à quel point l'entreprise n'est pas uniquement un rouage économique au service du capital, mais que l'entreprise est gouvernée par des entrepreneurs qui sont eux-mêmes des hommes, avec leur sensibilité, et qui peuvent prendre ce type d'engagement sans sacrifier pour autant la performance économique.
Alors, Charles Kloboukov, donc itinéraire d'un entrepreneur engagé. Je reviens quand même sur la Corse, Jean-Christophe Angelini. On va parler quand même d'une gangrène, on va parler du littoral. Là, c'est quand même un sacré problème, parce qu'on voit que les choses quand même par gentiment en vrille. Encore dans Corse Matin hier, loi littorale, le double langage de l'État en Corse doit cesser. Et là, des associations disent tout à fait clairement que les préfets continuent de délivrer des permis de construire sur des zones déclarées inconstructibles, tandis que d'un autre côté, les ministres viennent sur l'île dénoncer la présence d'une mafia liée à l'affairisme immobilier. Ce n'est pas nouveau, on est très loin, si vous voulez, maintenant, des règlements de compte, on va dire, de l'honneur. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui et comment ceci peut évoluer ?
Mais ceci doit d'abord évoluer au travers d'une prise de conscience forte de la part de l'ensemble des collectivités et pouvoirs publics de l'imminence et du danger. De l'imminence parce que, je regrette de le dire aujourd'hui, la Corse doit être l'une des rares îles, l'un des rares territoires à avoir eu un tel potentiel de développement et de préservation naturelle au début des deux ou trois dernières décennies passées, et à l'avoir gâché pour partie dans des conditions tout à fait lamentables, avec notamment des choix d'urbanisation, de développement et d'aménagement qui ont été faits à rebours des évidences et vraiment dans des conditions, encore une fois, tout à fait catastrophiques, d'un point de vue démocratique d'abord, et bien sûr sur le terrain en termes de résultats et de ressentis.
Alors dans les années 70, on va dire qu'effectivement ça pétait, mais là ça arrangeait bien de toute façon les écologistes, même en fait les directeurs de l'environnement locaux, parce que là ils gagnaient évidemment beaucoup de temps, donc là on comprenait bien. Après ça a quand même beaucoup changé depuis les années 90, on va dire.
Alors justement, la deuxième idée, c'est que les associations aujourd'hui font un travail qu'il faut saluer publiquement, auquel il faut vraiment rendre hommage, parce que sans elle, une situation qui tend effectivement, vous le disiez de manière un peu imagée, tend à partir en vrille, serait plus catastrophique encore. La difficulté aujourd'hui, elle vient du fait qu'elles font le boulot de l'État. Qu'elles font le boulot de l'État, parce que l'État, entre autres attributions nombreuses, peut-être trop nombreuses d'ailleurs, ici comme ailleurs, en a une, c'est le contrôle de l'égalité. La difficulté, c'est qu'il ne l'exerce pas, cette attribution, et que des permis complètement fous, non seulement sont délivrés, mais sont validés par la préfecture et par les services. Donc on en arrive à avoir des incohérences, des aberrations de terrain qui sont couvertes et validées par l'État lui-même.
Mais
donc
ça profite bien à quelqu'un quand même tout ça.
Pardon ?
Ça profite bien à quelqu'un.
Ça profite forcément à quelqu'un.
À quelques-uns,
Serge. Mais l'idée, c'est moins de savoir à qui ça profite que de savoir combien de temps ça va durer. Effectivement, c'est la matrice de toutes les dérives. Et quand on montre la Corse du doigt en disant « mais regardez les règlements de compte, la spéculation, etc. », on oublie la cause essentielle, c'est qu'on a fait aujourd'hui des choix que l'État n'est pas capable d'assumer à tout point de vue. Et aujourd'hui, on en arrive à des aberrations, encore une fois, qui peuvent être tout à fait contenues. Je dois vous dire que l'Assemblée de Corse y réfléchit. Il y a même des propositions qui font débat. Le statut de résident, la régulation du marché de l'immobilier, le double marché comme il existe ailleurs dans les îles anglo-normandes et ailleurs, il y a des propositions qui sont sur la table qu'il faut traiter sereinement et de façon tout à fait dépassionnée. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'on ne manquera pas de rappeler l'État à ses responsabilités. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on est victime d'une situation et on n'est ni responsable ni coupable.
Merci Jean-Charles Angelini. Jean-Louis Etienne, je ne vais pas vous demander effectivement une réaction par rapport à cela parce que ce n'est pas exactement effectivement votre intérêt, parce que ça vous écoutez bien, mais on va dire votre culture. Ce qui nous intéresse bien, moi je reviens un tout petit peu quand même sur ce que vous avez vécu en Californie pendant 2 ans, mais aussi sur les solutions que vous voyez. Pour vous, beaucoup de gens se disent, mais comment je peux passer à l'action? Comment moi, localement, je peux faire? On ne peut pas prendre toute l'écologie du monde en main, mais quelque part, effectivement, que ce soit ici à Caluy, que ce soit dans le Tarn que vous aimez, que ce soit n'importe où, beaucoup de gens ont envie de faire des choses. Comment vous voyez se dessiner ce paysage?
Beaucoup de gens ont envie de faire des choses, mais beaucoup de gens font des choses.
Et oui.
Et c'est ça qui est important, c'est que publiquement, on nous sert un discours politique qui est souvent ou à l'agonie ou impuissant. Et il y a du boulot. Corinne Lepage l'a rappelé hier. Je l'ai écouté avec intérêt sur la difficulté au Parlement européen d'arriver à imposer des choses. Et le danger, c'est que si le citoyen paresseux se dit « mais les politiques font rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous ?» Eh bien, c'est ça qui est, c'est l'individu qui peut. Moi, je dois dire, je visite beaucoup d'entreprises, vous le faites certainement. Il y a des choses extraordinaires, des chefs d'entreprise. Il y en a de plus en plus qui ont pris en main l'évolution de leur entreprise, qui ont isolé l'économie énergétique. Il y a des citoyens qui font des choses extraordinaires. Il y a des associations. Le boulot sur le terrain, il est fait. Et je crains sans arrêt. Les grands messes sur le climat, C'est extrêmement complexe le problème. Quand on touche au climat, on touche à la souveraineté des États à se développer, donc c'est extrêmement compliqué. Et donc les grandes messes, l'échec d'une grande messe est dramatique, alors que c'est le citoyen et les groupes de citoyens qui sont actifs et qui peuvent faire les choses.
Un tout petit mot rapide, Corinne Lepage, très vite.
Sur le climat, je rejoins tout à fait ce que Jean-Louis Etienne vient de dire. On prépare Varsovie qui va se dérouler dans un mois.
Capitale du charbon, la Pologne.
Enfin, qui en même temps organise une grande messe sur le charbon, en et même temps que sur le climat. C'est pour vous donner l'état d'esprit de nos amis polonais, extrêmement brillants, très engagés sur le changement climatique. Très engagés, entre guillemets, bien entendu. Enfin, bon. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Louis. Il y a des entreprises qui font des choses formidables, des associations, des citoyens qui sont engagés. Ce qu'il faut attendre de l'État, c'est qu'on aide les gens à faire et qu'on arrête de les empêcher de faire. Mmh. Voilà. Et je crois que le jour où on arrivera à ça, eh bien, ce sera gagné. Mais ce n'est pas encore gagné.
Et il faut surtout, chers amis, il faut que les gentils se rassemblent. Il faut que les gentils se rassemblent. Permettez-moi juste cette phrase de Pablo Neruda. Et c'est dédié à Julieta Ramirez, à qui nous avons dédié cette 22e édition. Je veux faire avec toi ce que le printemps fait avec les cerisiers.
C'est très beau. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Dominique Muratti, à Radio Corse Frequenza Mora, à Christophe Imbert qui réalisait cette émission, à Stéphane Combe, notre assistant, à Albert Hook, Thierry Dupin.